Chapitre 3. À dater du lendemain, une vie très douce commença pour lui. Rien n'en venait interrompre la monotonie, et pourtant elle lui sembla la plus variée qu'il eût encore menée, tant elle était pleine de la jouissance inconsciente d'elle-même. Comme à Toulouse, il avait repris ses habitudes d'intérieur et de surveillance domestique. Il s'était replié aux minutie du ménage, faisant dès le matin la cuisine et le premier déjeuner de sa mère, car la fille de bord, chargée de les en servir, s'en tirait mal. Mais en dehors de ses occupations qui jadis l'absorbaient en entier, une existence neuve était descendue sur lui, brusque invasion de quiétude et de gaieté printanière. Il se levait très tôt, à 5h30, éveillé par la clarté qui déjà remplissait la demeure, et comme sa mère faisait grasse matinée, il s'en allait aussitôt dehors, au hasard, goûtant l'ineffable bonheur des réveils de la terre, la solitude plus grande, le vide des chemins dont le poudroiement terne n'aveuglait pas encore les verdures mouillées de rosée, et les teintes d'arbres qui, sous les blancheurs d'aube, paraissaient noyées dans des buées bleues. Même une promenade devint ainsi sa favorite. C'était dans un sentier embroussaillé qui courait à travers de longues graminées onduleuses et sous le couvert des peupliers suivait la vique cierge. Tout le long, de Belle-Pêche jusqu'à Lerse, les horizons disparaissaient, voilés par l'encaissement. Sur le ciel, il se faisait un fourmillement de branchages, de cimes étêtées de saules, d'ormes jaunissants, et l'eau, devant, jetait une surface endormie, rompue de distance en distance par des arêtes de roches minuscules, dont les dos ruisselants semblaient de loin des torses de marbre oubliés. À marcher là, il éprouvait une joie étrange, comme à se laisser mouiller par les herbes, frissonnant de la fraîcheur qui tombait des berceaux d'arbres. Le jour, parfois, il y retournait, ou quelquefois, après leur dîner, quand Madame Deschantres, fatiguée, se refusait à sortir avec lui, et c'était à ces heures diverses un décor sans cesse renouveau, la nature, faite protée, les nuances des plantes, passant du bleu du matin au soir, assombrie de la nuit par toutes les gammes des jaunes verdoyants, et le jaune des ors mat, le jaune des bijoux anciens, le jaune argenté des pièces de vermeil, l'eau aussi, qui à l'aurore était nuancée de plissures roses, se figeait vers le soir avec des teintes gris fer, comme une grande lame immobile. Le brouillard suivait la rive avec des formes vaporeuses, avait au-dessus du sol le balancement des choses irréelles, et fondu vers les bords, disparaissait sans limite perceptible dans la lumière de l'air. Ou bien les remous, en certains recoins de galets, chantonnaient avec des blancheurs d'écume qui semblaient le rire de l'eau, et le vent passait au-dessus avec un bruit de charge, n'effleurant que les cimes, tandis que le tumulte des insectes, des oiseaux, des nids alternativement réveillés et endormis, tout ce grand bruit délicieux et des fourrés était couvert au loin par le beuglement mélancolique de bœufs ramenés à l'étable. Et dans ses promenades, Stéphane ne pensait point, se laissant pénétrer peu à peu par cette immutabilité des choses à laquelle nous ne croyons pas, tant notre rêve lui jette de variété. Ni la monotonie des courses sans but, toujours semblables, ni le silence de sa propre voix ne le fatiguait. Toute son activité morale paraissait absorbée par une activité physique et machinale, et il semblait que l'influence de ce milieu eût suffi à le rendre paysan, attaché au sol comme l'arbre à ses racines. Même au début, il n'avait point conscience des splendeurs de féerie que la nature étalait devant lui, mais vivant d'une demi-vie, il voyait sans voir, se sentait bien, sans savoir ce qu'il sentait, et ne cherchait rien de plus. C'était pourtant au fond de lui un travail inconscient et sourd, un éveil de son être, jusqu'ici rivé aux petites choses et aux petits faits. Le sentiment du grand pénétrant en lui presque à chaque heure, son âme s'ouvrant à la lumière ainsi que les fleurs, attendant le matin pour montrer leur cœur à nu. Jusqu'alors il avait été enfantin, sans désir comme sans emportement. Son existence familiale et retirée l'avait retardé, accroissant ses timidités, ses peurs de l'inconnu. On eût dit que le froid méthodique de sa vie de travail avait jeté son ombre sur cet idéal inconscient que chacun apporte ici-bas, dès l'enfance, et il aurait pu compter ses accès d'enthousiasme et de juvénilité. Maintenant, le beau prenait pour lui des formes, des contours, comme les étendues brûlées que du matin au soir il avait sous le regard. La succession de ses étonnements, le jour de son arrivée, avait été une sorte de prophétie de ce qu'il éprouverait là. D'abord une indifférence craintive, puis la force silencieuse des landes dénudées de l'Aude, le poignant dans ses fibres profondes, enfin Belle-Pêche lui jetant son coloris, sa gaieté de verdure, son soleil, ses ruissellements de rivière, et des désirs lui venaient peu à peu. Besoin physique d'aimer et angoisse d'attente, que dans son innocence il confondait avec la poésie des choses. Sa virilité s'éveillait dans la griserie de l'air. Entre son existence d'aujourd'hui et celle d'autrefois, c'était un fossé creusé que chaque minute nouvelle rendait plus profond, un vieillissement de son corps, l'élan de son esprit vers des pensées inconnues et troublantes. Presque toujours aux heures chaudes et amollissantes de l'après-midi, il partait pour le château. D'habitude, il y trouvait Sidonie, installée sous la véranda à des raccommodages de linge ou livrée à des occupations de ménage. Elle l'accueillait sans coquetterie de pudeur. Ses réceptions, dépourvues d'embarras, lui enlevaient toute gêne. Il s'installait près d'elle et des causeries s'entamaient dont elle faisait tous les frais, heureuse d'avoir un auditeur. Toute la vie de Sidonie y passait dans un débordement de confidences qu'elle lui faisait aussi bien qu'elle les aurait faites à d'autres, ne réservant sa confiance que pour de petits faits indifférents, pendant qu'elle étalait à nu sa vie et ses arrière-pensées. Sur son mariage, surtout, elle revenait avec une insistance, discutant encore les clauses du contrat, comme s'il n'était pas chose accomplie. « Vous comprenez, cousin, que cela m'est si bien égal de ne pas avoir eu de dot, maintenant que papa est trop vieux pour pouvoir se remarier. Nous avons refusé une maison qu'il nous offrait parce qu'elle ne rapporte rien que des réparations à payer. Oh, je crois même que c'est pour cela qu'il voulait nous la donner. » Au reste, à l'entendre, Marc s'entendait parfaitement à tout cela. Elle savait bien, Dieu merci, qui elle avait choisi en le prenant, mais elle ne s'en repentait pas. Avant leur mariage, il était désœuvré comme les autres. Ici, dès qu'un homme se sentait deux acres de terre derrière lui, il courait. Mais elle y avait mis le haut là, maintenant. C'était elle qui comptait les visites, les acquittait. Elle savait où il allait, ce qu'il faisait, qui le demandait, etc. Tant de confidences continuaient sans relâche. Stéphane, touché par cette condescendance familière, ne se doutait point qu'elles étaient un résultat d'éducation et que les secrets dont Sidonie le favorisait étaient les secrets de tout le monde. Il éprouvait une jouissance inavouée et un épanouissement d'amour-propre à entendre enfin une femme le traiter en égal, lui parler comme à quelqu'un, non comme à un meuble ou à un enfant, sans portée. Et dans ces demi-heures qu'il passait à écouter ainsi, des nœuds invisibles se formaient à son insu, multiples, insaisissables, qui le liaient à sa cousine de toute la force de l'habitude et de sa propre estime reconquise. « Tiens, vous voilà, monsieur Stéphane. C'était le sifflement de voix de Baptistine, dont tout à coup la tête jaune se profilait dans un entrebâillement de croisée ou quelque angle de porte. Il se levait par politesse, mais elle l'arrêtait aussitôt. « Sylvia, non, ne vous dérangez pas. Vous êtes avec Sidonie, je ne veux pas vous empêcher de causer. Ne vous dérangez pas, allez, allez, je m'en vais. » Et sans bruit, comme elle avait paru, avec une malice mauvaise dans les yeux, elle s'évassait ensuite, semblant n'être venue que pour une simple constatation et poussée par une démangeaison de curiosité. Rendus à leur tête à tête, Sidonie haussait les épaules avec une colère mal dissimulée. Elle a voulu la cuisine, qu'elle y reste et que ce soit fini. Même une de ses apparitions intempestives l'a mis une fois hors d'elle. « Mais telle embêtante, hein, cette Baptistine !» s'écria-t-elle en croisant les bras d'un geste colère. Et comme Stéphane s'étonnait naïvement. « Mais après tout, reprit-elle, je peux bien vous le dire, puisque vous venez souvent, un jour ou l'autre vous l'auriez remarqué. Mais c'est vrai, je ne peux pas la voir. » Vous comprenez, cela, elle s'occupe de tout chez moi. Je n'ai plus le droit de rien faire ici, sans qu'elle se mette en travers, décidant de tout, tranchant de tout. Mais j'en ai assez. Puis, avec un sourire enfiellé, elle ajouta, « Enfin, il faut bien la supporter, de vieux parents. » Ce qu'elle ne disait pas, c'est que Baptistine était une tante à héritage, ni qu'ils avaient cru faire un coup de maître en l'accaparant. Elle, vieille fille, lasse de mettre à l'épargne et résolue de planter là sa mercerie de Villefranche, avait d'abord refusé, faisant mine de craindre un panneau, mais les Ferramus avaient insisté outre mesure. « Venez, nous vous soyerons, vous ne serez plus seuls, et pourtant vivrez comme chez vous, tout à fait libre. Sidonie est jeune, elle a besoin de vos conseils. » Si bien qu'elle avait semblé leur accorder une grâce en acceptant leur offre. Et depuis, peu à peu, c'était elle, l'étrangère, qui était devenue le rouage, le facteur principal de cette maison dont rien ne lui appartenait. Ah, par exemple, comme elle avait manœuvré ses intérêts, s'y connaissant à fond en matière d'avarice. Sans cesse tenant suspendue sur eux la crainte d'un départ et d'une brouille irrémédiable, elle avait gagné une terreur de domination sous laquelle tout se pliait. Maintenant, elle était le factotum, une façon d'intendant despote, le domestique en sous-ordre et silencieux auquel maîtres et valets se soumettent, le contrôle taciturne, permanent, redoutable, s'informant sans bruit, au fait des mésintelligences les plus secrètes du ménage, des étourderies de la femme, des fredaines du mari, invisible, promenant partout et nulle part, sa joie d'être haï, de jouir pour rien d'un autre bien que le sien, et sans cesse pesant de tout le poids de son héritage problématique. Cela ne fait rien, les vieux parents, si on savait à quoi on s'expose en les reprenant. Et dans la pensée de Stéphane, Sidonie tout à coup montait. Il la croyait victime de sa bonté, l'admirant de continuer ainsi une véritable charité à cette Baptistine qui la lui rendait en malveillance. « Oh, c'est souvent ainsi, disait-il. J'ai vu dans la rue, moi, des pauvres dire des sottises à ma mère qui leur donnait l'aumône. » Il commençait même à être comme Sidonie, à détester cette apparition mécanique dont le regard le poursuivait dans le gênant étrangement. Et il lui en voulait de venir rompre leur intimité et mettre un arrêt à ces épanchements monotones qui lui causaient pourtant l'une des plus grandes jouissances de sa vie. Car insensiblement, ses visites quotidiennes avait pris dans ses programmes de journée une place à part et prépondérante. Souvent, il s'était surpris à hâter le déjeuner, ce déjeuner provincial où l'on mange si lentement, pour quitter plus tôt la visite et retourner au château. Par une complicité tacite Jamais le médecin n'était là quand il venait. Et jamais, dans sa simplicité d'âme, Stéphane n'avait songé que ce fût justement la solitude à deux qu'il y vint chercher avec tant de plaisir. Il semblait plutôt qu'elle adoucît en lui ces retours violents de santé que la nature lui causait. Près de Sidonie, il rencontrait un apaisement, cette béatitude du chat qui, dans la chaleur du foyer, ronronne sans remuer. Il y restait des heures, immobile, lui parlant à peine, mais écoutant le bavardage incessant dont elle ne se fatiguait pas, et ne levant la séance que lorsqu'elle l'exigeait. Il aimait maintenant reposer sur elle ses yeux, souriant de son sourire, de ses gestes, de ses vivacités gamines, qu'il rapprochait de lui, s'ingéniait à lui rendre des services insignifiants, allant chercher ses paniers à ouvrage dans la salle à manger, ou l'aidant à porter les légumes qu'ils avaient récoltés au potager. À chaque heure, à chaque minute nouvelle de cette intimité, elle s'emparait de lui, entrait en lui sans qu'il s'en doutât, sans qu'il tentât de résister à l'invasion de lui-même, par cela seul qu'elle était femme, jeune, et que, ne sachant rien de l'amour, il avait la témérité des ignorants et leurs inconsciences. C'était seulement lorsqu'il la quittait, après les somnolences ravies de ses après-midi, qu'une inquiétude vague le saisissait. Trouble de sens sans objet, impudeur naïve, que semblait lui jeter la tiédeur de l'air, les parfums de la verdure, la caresse amoureuse des plantes épuisées de soleil. De nouveau, tout le poème enchanté des arbres, de la rivière, des prés, des champs, se déroulait devant ses yeux, de même que le matin. C'était la même succession de routes ombreuses, de sinuosités feuillées, les mêmes silhouettes de taillis, mais noyées maintenant dans la lumière attendrie des fins de jour, et l'on eût dit que l'alanguissement des choses descendait aussi sur lui ou qu'il en rapportait une impression d'amabilité plus grande. Des élans le soulevaient parfois, le forçant à courir, emporté par une joie qui brusquement lui montait au cœur, ou bien il s'arrêtait à un chant d'oiseau, un mouvement de fourrée, se laissait tomber sur l'herbe près d'un coin de haie, et de nouveau se perdait dans un rêve, à regarder au-dessus de lui le bleu du ciel, d'un bleu opalin qui, sous le regard, paraissait monter, monter toujours, en donnant la sensation du vide. Dans la nonchalance de ses retours, dans ses absences de pensée où il s'abandonnait de lui-même à l'éveil des sens, des images obsédantes lui venaient qu'il mettait toute sa puissance de volonté à réprimer. N'ayant gardé d'instinct une horreur des moindres froissements de sa chasteté, si bien grandi dans l'ignorance et l'anathème de la femme que la moitié de la vie d'homme lui était lettre close ou interdite, une lutte se livrait au fond de lui entre ses volontés religieuses et le désir sans but qui le meurtrissait de plaisir. Lutte où les affres de la tentation elle-même devenaient une telle jouissance qu'il cherchait à les rappeler. Et c'était le même enivrement, le même besoin d'acide d'aimer, quand pour obéir à sa mère, il allait se baigner dans la vie que siège. Rien que la vision de sa chair suffisait à le troubler. Dans les glissements de l'eau sur son corps, il lui semblait percevoir une sensation de caresse qui l'envahissait partout en lui causant un frisson. Puis il éprouvait des hontes soudaines et inexplicables, se rhabillait en toute hâte et courait à la visa d'une traite, s'imaginant avoir fui un danger effroyable, gardant la crainte superstitieuse de cette eau dormante dont le cours se reconnaissait seul à de légères écumes venant mourir sur la rive. Madame Deschartres l'accueillait étonnée. « Mais qu'est-ce que tu as, Fifi ?» Il rougissait violemment, n'osant lui confier la terreur envahissante qu'il avait saisie. « Rien, maman, rien. Quel nigaud tu fais ?» disait-elle en riant. « Bien sûr, il ne t'est rien arrivé. Non, non, rien du tout, je vous l'assure. Comment aurait-il pu lui dire ces tressaillements de l'amour qui s'ignore, ces impressions insaisissables faisant frémir son être et dont sa pudeur s'épouvantait? Alors, surtout, la dignité de sa mère lui apparaissait dans une auréole de grandeur. La froideur dont si souvent il avait souffert devenait une grandeur de vie merveilleuse et inaccessible. Il se prenait pour elle d'une admiration et l'entourait de plus de respect, comme une vierge d'autel, osant à peine en approcher, se refusant les démonstrations affectueuses qui sentaient trop la familiarité de l'enfance. Et c'était une réserve sérieuse, des silences pensifs, son amour filial, nuancé de timidité, concentré en des signes à peine visibles, mais à travers lesquels il passait tout entier, vibrant et raisonné. On eût dit l'humilité du fidèle s'abaissant dans une adoration reconnaissante devant la divinité. Jamais pourtant Madame Deschamps n'avait été si bonne et si expansive. Et elle, en elle aussi, le séjour de Vic semblait avoir mis une détente. Point de migraine cette semaine-là, ni de ces querelles à propos de rien qui parfois surgissaient entre eux. Aucune plainte de la solitude relative dans laquelle sa vie nouvelle la laissait. Elle semblait plutôt la désirer, voulant que Stéphane sortît beaucoup. « Alors, Fifi, nous ne sommes pas venus ici pour rien. Il faut que tu gagnes des couleurs, une mine de santé à me faire envier par les mères. Allez, va sans moi, je veux pas marcher. Et puis, je suis pas bachelière, moi. Le jardin suffira pour me remettre. » Et au retour, elle l'interrogeait avec un intérêt mal dissimulé. Qu'avait-il vu, rencontré? Que lui avait raconté Sidonie? Que faisait ton château et son cousin? Le soir semblait réservé à leurs épanchements. Des causeries où le passé revenait, ainsi que le temps où M. Deschamps vivait, leur vie à Paris autrefois, quand ils y avaient fait leurs 2 années de garnison. Et ils se promenaient aussi, elle lui donnant le bras, ou bien ils s'asseyaient devant la porte, savourant la nuit tombante et la quiétude de l'obscurité. Heure lente, coulant comme un grand fleuve reposé. La journée finissait, semblant ne les avoir effleurés que du bout de l'aile, leur laissant seulement une sorte d'indifférence paisible. « Il fait beau ce soir, n'est-ce pas ?» Et c'était chaque fois ce même refrain qui avait ainsi clôturé leur voyage après le dîner Ferramus. Et Madame Deschartres, rêveuse, évoquant les années anciennes, le présent peut-être, et Stéphane, l'âme remplie de visions ensoleillées, de paysages lumineux à travers lesquels l'image de Sidonie, passant et repassant, lui jetait une extase inconsciente. Et il semblait que la vie dût leur continuer indéfiniment cette joie silencieuse et cette absence de surprise ou d'événement, seule source de nos vraies félicités. Un soir, comme Stéphane en revenait du château, il rencontra M. Mouillac, qui parut ne pas le reconnaître. Au contraire, celui-ci accéléra sa marche. Puis une porte s'ouvrit grinçante, retomba sur lui violemment, avec le bruit de ferraille du marteau qui tressautait sous la secousse. Il avait disparu. Tout d'abord, Stéphane n'éprouva qu'un étonnement. Même en suivant la route pour entrer à la Visa, il s'efforça inconsciemment de n'y plus songer et de garder sa pensée flottante. Mais un poids s'était abattu sur son cœur, et en marchant, le silence profond des êtres dont toujours il avait joui lui causait une angoisse. À mi-chemin, il rencontra M. Ferramus, qui rentrait en toute hâte comme s'il eût craint de manquer un rendez-vous. Par politesse, Stéphane l'arrêta. « Vous allez bien, monsieur ?»« Pas mal, merci, » répondit-il, très rouge et s'épongeant. « Oh, je m'aurais jamais cru qu'à 16 heures, il fût encore si chaud. Mes compliments à votre mère, n'est-ce pas ?»« Ah, vous ne revenez donc pas de la Visa ?» Oh, vous me l'affichez belle! S'écria-t-il avec un rire forcé. Vous imaginez-vous que mon métier permette d'aller voir les gens en bonne santé? Il repartit du même pas avec un salut protecteur et un sifflement d'homme heureux. Stéphane le regarda s'éloigner et soudain éprouva la sensation d'une solitude énorme. « Mon Dieu, Monsieur Mouillac passait devant lui sans vouloir le reconnaître. Lui, l'ami des mauvais jours, si bon, si discret, lui qu'une année de dévouement n'avait pu lasser ni rebuter, disparut seulement aux heures de joie, comme pour renoncer à sa part de triomphe. Il était passé sans un geste. Le cœur de Stéphane se révolta. Pourquoi lui en voulait-il? Mais quelle raison qui tint devant leur affection? Ces tendresses délicates et inavouées dont chacune de leurs causeries avait été comme imprégnée. Et brusquement, Stéphane se rendit compte de son ingratitude envers lui. Comment avait-il omis d'aller le remercier du succès de son examen? Depuis 8 jours, il était là, presque son voisin. Il n'avait même pas cherché à le retrouver. 8 jours et déjà l'oubli, ce triste compagnon de toute joie. Il eut aussitôt la tentation de retourner sur ses pas pour s'excuser. Une timidité le retint, il ne se décida point. Autour, l'ombre tombante jetait une désolation morne. Un découragement douloureux descendait. Il hâta le pas, content d'apercevoir là-bas la visate, accroupie dans son massif de verdure, avec un point lumineux qui tremblotait au bar, la lampe de la salle à manger sans doute. Et de nouveau, il essaya de ne plus penser. Mais Monsieur Mouillac l'avait-il seulement vu? N'avait-il pu passer sans le reconnaître? Mais comment l'aurait-il deviné à belle pêche? Peut-être était-il pressé, ne regardant pas ou voyant mal. 1000 raisons qui auraient dû endormir son inquiétude et auxquelles il s'attachait malgré tout sans y croire, gardant le pressentiment de leur amitié irrémédiablement rompue, sans que rien au monde pût justifier pareille catastrophe. En voyant son fils, Madame Deschantres eut un mouvement de désagréable surprise. « Oh, comme tu reviens tôt !» fit-elle sèchement. « Moi ?» répondit-il étonné. « Au contraire, je me croyais en retard, trouvant l'obscurité plus grande que de coutume. Au moins n'as-tu rencontré personne ?»« Si, monsieur Ferramus, tout à l'heure. »« Ah !» dit-elle en fronçant les sourcils. « J'espère que tu l'as arrêté. Je ne sais pas ce que tu lui reproches. Tu n'es jamais aimable avec lui. J'entends que tu le traites en parent et en homme plus âgé que toi. » Un silence tomba. Puis la soirée s'écoula, interminable et sans causerie. Après le dîner, pour la première fois, Madame Deschantes refusa de sortir. « Oh, je suis fatiguée, dit-elle. Je crains d'avoir la migraine. » Elle le laissa seul, voulant se reposer. Resté dans cet isolement inattendu, qui lui rappelait pour la première fois celui de Toulouse, il se prit à songer. Des détails de jadis auxquels M. Mouillac était mêlé lui revinrent. Une à une, il revivait les heures matinales de sa préparation. Presque toutes étaient demeurées gravées, surtout la dernière où leur adieu s'était fait sous la pluie tombante, quand il courait le long des allées, avec l'image de Suzanne Mercier, évoquée dans des élans de passion si timides et si profonds. Et tout à coup, Stéphane tressaillit. Lorsque, par hasard, chez les Ferramus, ce nom de Suzanne Mercier était venu, Sidonie avait eu une colère, la traitant de fille. Une fille, elle? Ce mot d'allure fausse le laissait sans comprendre. Seulement, il s'en épouvanta, le pressentant gros d'insultes dont il était incapable de soulever le voile. Alors une nouvelle angoisse l'atteignit. Que pouvait-on dire sur la fiancée de M. Mouillac? Pourquoi cette haine de Sidonie? Et des pressentiments noirs le saisirent car il n'admettait point que Sidonie pût accuser à tort. Qui sait, peut-être voulait-on tromper M. Mouillac et surprendre son honnêteté en l'attirant dans un guet-apens de pauvreté. Peut-être cette douceur adorable qu'il vantait n'était-elle qu'un leurre. Dans sa mémoire, des souvenirs terrifiants du temps de son père lui revinrent. Souvenirs de journées tiraillées où les scènes se succédaient, terminées par des claquements de portes ou des pleurs de sa mère. Son cœur s'en serrait à mesure et il éprouva un immense besoin d'interroger Sidonie, de savoir enfin si vraiment cette Suzanne Mercier était une mauvaise femme. Sans la nuit, maintenant tombée tout à fait, une nuit douce où les silhouettes indécises des arbres grandissaient, semblant des êtres fantastiques, il serait parti tout de suite. La pensée de son ami, surpris dans sa bonne foi, lui paraissait monstrueuse. Il en oubliait leur rencontre de tout à l'heure, leur brouille probable, et n'éprouvait plus qu'une terreur à l'idée de rester une nuit entière dans la tente, le rongeant d'inquiétude. Très loin, depuis Belle-Pêche, les coups de 9 heures lui vinrent apportés par la brise. Le tintement grêle arrivait, diminué par la distance, planant lentement comme un soupir, et ses sonorités à demi éteintes, qui semblaient expirer dans les taillis, ajoutaient à la mélancolie de l'obscurité bleue. Point de lune, une lourdeur tiède de l'atmosphère, de la terre chaude, des vapeurs étouffantes s'exhalaient. L'orage se pressentait dans l'immobilité et dans le calme accablé où tous les bruits se mouraient. Tout à coup, tandis qu'il demeurait absorbé, il entendit marcher près de lui et, relevant la tête, eut un cri de frayeur. « Oh mon Dieu, vous, à pareille heure ! » Devant lui, Sidonie venait, enveloppée dans sa capeline, haletant comme après une marche forcée. « Oui, j'arrive. Vous n'avez pas vu Marc ?» En disant cela, sa voix tremblait un peu et prit une intonation dure qui le surprit. Comme il restait sans répondre, gênée soudain par son silence, elle s'expliqua rapidement avec des phrases hachées mordantes. Oui, après le dîner, Marc était parti sans lui avouer où il allait. Elle n'avait d'abord rien dit, bien que cela fût extraordinaire. Mais tout à l'heure, en ne le voyant toujours pas, la frayeur l'avait prise. Elle l'avait fait demander au café, un peu partout, et l'idée lui était venue qu'il serait peut-être à la visite. Bon, non, pourquoi ? Oh, ce que je sais ! Elle balbutia, décontenancée, formula des excuses vagues, revint sur son tourment violent, ne paraissant pas convaincue. Mais il ne l'écoutait pas, tout entier à la pensée qu'elle était là, venue juste au moment où il la désirait de toute son âme pour lui arracher son inquiétude à propos de M. Mouillac. Même il s'étonnait de cette coïncidence, lui donnant le mérite de l'apparente divination de ses moindres désirs, la couvrant de délicatesse reconnaissante. Quand elle eut fini, ennuyée de le voir en ne rien répondre, elle se ravisa et demanda durement « Votre mère est-elle déjà couchée ?»« Oh, je ne pense pas, » fit-il. « Il y a un quart d'heure qu'elle m'a quitté. Voulez-vous que j'aille la chercher ?» Il répondit cela avec une naïveté confiante, cette simplicité des ignorants qui commande le respect, étonnée seulement de la rudesse de ton avec laquelle elle parlait. Alors, après une seconde de réflexion, elle eut un soupir d'allègement. Il semblait qu'une horrible inquiétude vint de lui glisser les épaules. Elle éclata de rire un peu niaisement. « Non, 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 cousin, alors, laissez-la tranquille, » fit-elle. « Je me sauve. Marc fait sans doute comme la fortune. Il dort chez moi pendant que je cours bien loin. » Mais il s'apitoya de l'avoir ainsi tourmenté. « Non, non, je ne le suis plus maintenant, » reprit-elle en riant. « Oh, c'est chaque fois la même chose. Je me monte la tête à propos de rien, jusqu'à ce que tout d'un coup, je m'aperçoive que je n'ai pas le sens commun. Allez, tenez, accompagnez-moi seulement jusqu'à la route. L'allée est si noire que j'ai peur. Volontiers, d'autant que je voulais vous demander. Ah, reprit-elle, me demander quoi? Le sourire de Sidonie était revenu, son sautillement de pensionnaire aussi. Elle avançait sur le pavé par glissade brusque, que Stéphane suivait gauchement, et ainsi, marchant dans l'ombre, bras dessous, de loin en loin seulement caressée par des lueurs cendrées qui perçaient le feuillage, ils semblaient deux amoureux se confiant leurs premières ivresses. Elle répéta « Me demandez quoi, voyons ?» Mais au moment de nommer Suzanne Mercier, il se sentit devenir timide, balbutia, la regardant avec une supplication. « Bien sûr, vous ne vous irriterez pas de ce que je vais vous dire. » Et comme elle s'étonnait, lui répondant « Mais dépêchez-vous donc !» Il continua, la voix tremblante d'émotion. « Mais qu'est-ce que vous a fait Suzanne Mercier pour que vous lui en vouliez tant ?» Elle s'était arrêtée net, les lèvres tout à coup blêmies, à demi suffoquées de stupéfaction. « Mais ce qu'elle m'a fait ? Ah, elle est bonne, par exemple !» Éclatant d'un rire forcé. « Oh, c'est au moins Baptistine qui vous a chargé de me faire cette question, n'est-ce pas ?»« Mais pourquoi voulait-elle que ce fût Baptistine ?» « Non, certes, Baptistine n'y est pour rien. Non, c'est pour moi, rien que pour moi. »« Ah, si c'est pour vous, c'est encore mieux, » fit-elle avec le même rire faux. Jamais elle n'aurait attendu pareille chose de ce bonnet. Au moins, pour faire des bêtises, ne va-t-on pas consulter ses parents, surtout elle. Mais Stéphane, maintenant, s'était lancé. Ce calme, l'air mauvais qu'elle gardait, arrêté au milieu de la route, l'épouvantait. Un flot de paroles lui vint. Il s'excusait dans un bredouillement de phrases confuses, se perdit dans des incidences infinies. « Oui, oui, mais c'était pour lui, ou à peu près. Monsieur Mouillac. Ah, elle ne connaissait donc pas Monsieur Mouillac. » Je croyais pourtant lui avoir parlé de lui depuis son arrivée, enfin peu importait du reste. Monsieur Mouillac était le fiancé de cette Suzanne Mercier, et il appuyait sur cette, croyant ainsi calmer Sidonie par son mépris anticipé. Mais bien sûr, il ne lui avait pas encore soufflé mot de Monsieur Mouillac. Il en pouvait retenir d'étonnement. Son professeur, l'année dernière, ah, le brave cœur, justement, il l'avait accompagnée à la gare le jour où elle était venue à Toulouse. C'est pendant ce trajet qu'il lui avait annoncé ce mariage. Il aimait tant cette Suzanne, et rien que d'en entendre parler, cela l'avait retourné, lui. Et il méritait d'être heureux, Dieu merci, le pauvre cher homme, si bon et si affectueux. Il racontait à la volée toutes ses souvenances attendries, qui tout à l'heure l'avaient hanté. Les incidents de leçon, les énigmes de dévouement qu'il avait cru jadis deviner, s'échauffant à les étaler enfin au grand jour, et pour la première fois ne faisant plus attention à l'orage amoncelé dans le silence de Sidonie, quand brusquement elle l'interrompit, éclatant. « Ah bien, il est joli, votre monsieur, de s'abouracher de cette fille-là. » « Mais mon Dieu, mais que voulez-vous dire ? Ah oui, du pop, cette tabourette, avec une coureuse. » Il répétait, effaré, « Une coureuse. Allons donc, vous ne comprenez pas ?» Pour le coup, c'était trop drôle, cette naïveté chez lui. Sa bêtise dépassait les bornes. Il en savait moins long qu'elle à 15 ans, car dans la vie de campagne, l'amour se fait librement, des bêtes ou des gens. Ou qu'on soit, et sans pudeur. Et tout à coup, énervée par le regard interrogateur qu'il lui jetait, elle s'écria brutalement, « Mais vous ne savez donc pas ce que c'est, mais une salope, quoi, qui couche avec tous les hommes du pays, n'importe qui !» en même temps à en parler, et sa rancune éclata. Et avec des mots sales, tout le bagage de paysanne mal embouché que son éducation n'avait pu frotter lui monta aux lèvres. Oui, elle était cela, la Mercier, une rien du tout, qui avait traîné partout sa souquenille. Était-ce assez dégoûtant, hein? Eh bien, ça n'empêchait pas les hommes de courir après. Tous y allaient, les huppés et les sans le sou, tous comme affamés de faisandage, jusqu'à son mari qui y avait passé, pis encore pis que les autres, ayant avec elle une vraie liaison rompue seulement à son mariage. Et depuis même, cela avait failli recommencer. C'est pour cela que Baptistine en avait parlé, bien sûr de les exaspérer. Mais en avait-il beau faire, Marc ne s'était pas laissé agripper à nouveau. Il aurait pu manquer que cela, car enfin, même quand on n'aime pas son mari, c'est une affaire d'honneur de ne pas le laisser rôder. Et c'est après ça qui se colle, votre bouillac? Ah oui, du propre, reprenait-elle avec une exaspération de rancune dégoûtée. Lui restait anéanti devant l'étalage brutal d'un monde dont jamais son innocence n'avait encore été effleurée, pris d'une honte. En même temps qu'il se revêtait à ses vérités, dont chacune le blessait, une révolte d'honnêteté montait en lui. Quoi ? Il existait de ces femmes, se vouant alors dures, et on ne les montrait pas du doigt, on les laissait vivre au grand jour de tous, faire un métier de leur travail de chair. Il lui semblait crouler dans une chute abominable. Avoir la vie ainsi déchue brutalement de cette virginité que ses yeux d'enfant lui avaient donnée, il souffrait horriblement. Et il voulait douter, se croire trompé, moquer. Vous en êtes sûr, absolument sûr? Oh, c'est si monstrueux, si horrible! Mais Sidonie eut un accès de gaieté. Si on a été sûr, ah, elle en était raide, celle-là. Comme si cette satanée gueuse n'avait pas failli empêcher son mariage avec Marc. Il était donc rudement raïf de croire celle-là une exception. Merci, oh, il en rencontrerait d'autres sur terre. On voyait bien qu'il n'avait vécu que sous les jupes de sa mère. Encore, chaque fois qu'il passait à côté d'une fille, il avait dû lui boucler les yeux avec la main. Vous, un homme à la ville, vous en êtes là? Et cela la faisait rire, ses illusions de 12 ans. Cette angoisse à sortir sans transition de l'aurore chaste d'une vie d'homme. La torture dont la trace se marquait sur le visage de Stéphane l'amusait, et même celui-ci lui paraissait maintenant étrangement bête, petit garçon et niais. Vous un homme, alors donc? Et elle dit cela avec un accent de profonde pitié. Désormais, il était diminué pour elle, redevenu une chose sans conséquence ni portée. Mais soudain, il se secoua de son anéantissement avec un cri d'angoisse, le danger de son ami l'ayant épouvanté. La pensée que son maître avait pu tomber là-dedans, s'y laissant prendre sa droiture, le terrifiait et il balbutia. « Mon Dieu, monsieur Bouillac! Et avec ça qu'il ne le sait pas, votre mouillac, ayant mis ses conditions, voilà tout. » Et elle se gaudissait à cette idée bouffonne d'un homme s'engluant à un pareil torchon, disant que le jeu n'en valait point la chandelle, quand Stéphane fut saisi de colère. « Mais taisez-vous! Jamais, jamais il n'a su ses infamies. Mais c'est horrible ce que vous dites là. On voit bien que vous ne le connaissez pas. » Et il répéta, comme devant un écroulement ou un cadavre, « Oh, le malheureux, mais qui l'aurait pensé ?» Sidonie eut alors un haussement d'épaule. « Oh, après tout, ça ne nous regarde pas. Que voulez-vous qu'on y fasse ? Comment cela ne nous regarde pas ? » S'imaginait-elle qu'il laisserait ainsi M. Mouillac donner tête baissée dans le gouffre ? Mais c'était son ami, le seul être qui autrefois eût été bon pour lui. Oh, il fallait qu'il y eût un moyen de le sauver, quelque chose à dire ou à faire. Il était impossible, monstrueux, qu'on dût se résigner devant cette tromperie. Et elle l'aiderait, n'est-ce pas? Ah, pour ça non, par exemple. J'ai eu assez à faire avec cette gueuse pour ne pas vouloir recommencer. Mais il ne l'écouta pas, parlant avec des gestes d'angoisse qui semblaient battre l'air pour y saisir un fantôme. Et tout à coup, il crut avoir trouvé. Ce mariage n'était pas encore fait, il ne pouvait l'être. Alors il irait, dès le lendemain, trouver M. Mouillac, lui arracherait son illusion, lui dirait où il s'était fourvoyé, et il n'en doutait pas, tout de suite M. Mouillac aurait la même révolte que lui et, le cœur soulevé, abandonnerait cette Mercier. Il eut un rire de triomphe. Vous voyez bien qu'il y a un moyen. Sidonie le regardait stupéfaite. Vous irez chez cette fille? Comment cette fille? Mais avec cela, que votre Mouillac en découche. Il n'avait pas songé à cela. À l'idée de la rencontrer, peut-être, la peur superstitieuse que l'impudeur jetée au chaste le saisit. Mais la pensée de son ami l'emporta. « Non, j'irai, » dit-il, la voix tremblante. « Seul, et si on ne vous reçoit pas? Oh, j'essaierai toujours. Mais votre mère, j'essaierai toujours. Est-ce qu'elle le saura seulement ?» C'était son mot maintenant, « j'essaierai ». Il s'y heurtait avec une inflexible volonté, l'entêtement des faibles que rien ne peut convaincre une fois qu'ils sont butés. À son tour, Sidonie s'irrita, voulant le détourner d'une telle absurdité. Jamais on ne le laisserait pénétrer, car sa parenté au Ferramus était connue. Même s'il entrait, il verrait comme son Mouillac s'unirait à la Mercier pour le mettre dehors. Il avait beau ne rien savoir, enfin, il devait bien comprendre que les gens progrès n'allaient pas dans des maisons pareilles. Mais lui répétait comme un refrain, « Mais j'essaierai !» Elle continua, cette tentative la jetait hors des gonds. Une crainte s'était éveillée en elle que plus tard, la Mercier ne se vengea sur Marc. À aucun prix, elle ne voulait recommencer la lutte des années dernières. Mais tout fut vain. Il s'était décidé, ne l'écoutant plus. Il irait, le devant à son ami. Peu importait comment il s'en tirerait. Il irait, voilà tout. Mais je le dirai à votre mère, nous verrons bien si elle vous en permettra, s'écria Sidonie exaspéré. Mais il répondit, très calme, « Oh non, je sais bien que vous ne le ferez pas. » Sans deviner pourquoi, un instinct lui disait que jamais elle n'oserait confier à Madame Deschantres de pareilles turpitudes, ni ses griefs contre Suzanne Mercier. Alors, à bout d'arguments, elle eut un cri de colère. « Bon, c'est bon, allez vous frotter à cette saleté, vous ne vous voulez pas mieux que les autres. » Et elle tourna les talons, heureuse de lui avoir jeté à la face cette injustice lâche. Brusquement, Stéphane se retrouva seul dans l'ombre. Autour, la nuit très sombre avait enveloppé toute chose, fondu les troncs d'arbres dans les baies, paraissant creuser des horizons éhéants et infinis dans l'obscurité environnante. Il éprouvait un écœurement, l'innommable dégoût de lui-même et des êtres. Il ne pensait même point. Mais il croyait à un fardeau l'enveloppant, empêchant de respirer, à des années passées en un instant sur lui et qu'il écrasait de leur poids. Et tout à coup, comme il restait immobile, le merveilleux silence, la paix endormie de la terre dont depuis des jours il s'enivrait, l'impassibilité verdoyante et rieuse des plantes, si lointains eux-mêmes que les ténèbres dérobaient, lui jetèrent une terreur. Il les devinait perfides, mauvais, comme si derrière chaque immobilité de branche se fût cachée une traîtrise inconnue. Alors, tout le tumulte de son cœur se grandit de cette tranquillité radieuse. Il fut pris de panique et courut vers la Visa, qui, toute noire et sans lumière, se dressait, ne montrant de sa masse que les arêtes coupantes des angles de mur. Mais elle aussi, au milieu du sommeil universel, semblait lui refuser son refuge et proférer une menace.